Et c'est la fin de la récré, vous écoutez CFM Radio, carnet de correspondance, émission en partenariat avec le collège Valcéroux de Cordes-sur-Ciel et plus particulièrement son principal, monsieur Jean-Marc Robin qui est avec moi en studio. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Jack.
Alors dans le dernier numéro, dans la dernière émission, nous avions commencé à parler du collège, hein, le collège d'aujourd'hui, quelles étaient un peu ses difficultés, ses faiblesses, à quoi ressemblait donc ce collège d'aujourd'hui et qu'est-ce qui avait changé ces dernières années. Tu nous as parlé non seulement des performances qui sont inégales, hein, entre les élèves et les établissements, un recul des compétences en orthographe, en français, en mathématiques, en lecture, un problème aussi de vivre ensemble, hein. Voilà quelques notions que tu avais pointées du doigt, hein, sur les difficultés peut-être du collège aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Tu nous as parlé de la réforme de 2016, des projets d'établissement qui étaient maintenant propres à chaque collège aussi, et du brevet des collèges qui devient selon toi un petit bac, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on demande à ses élèves pour pouvoir passer en classe de seconde. Aujourd'hui, on va parler du collège de demain. À quoi il pourrait ressembler si, je ne sais pas, si tout allait bien, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, ou si tout allait mieux pour tout le monde, Jean-Marc?
Oui, alors je pense qu'il faut faire cet effort-là, et c'est important d'imaginer le collège du 21e siècle. Clairement, tout le monde comprend, et je pense que du ministre aux parents, passant par les professeurs, qu'il faut inventer l'école de demain. C'est vraiment ce qu'on entend aussi beaucoup en discutant. Et il y a quand même des choses à changer. Alors, moi, je réfléchis pas mal sur ces questions-là. Et là, je vais me lancer, je vais faire
une petite proposition.
Allons-y.
Voilà,
il se lance dans la campagne pour le ministère de l'Éducation nationale.
Tu m'offres un micro. Et donc, par conséquent, je vais pouvoir, du haut de... Voilà, de mon expérience et puis un peu un travail de réflexion, donner quelques pistes. Alors, moi, la première piste qui me semble très importante, je reviens convaincu de ça. Je te parlais de la belle journée qu'on avait fait au lycée de Rascol, là, sur une journée sur les cordées de la réussite où les enfants ont été initiés, enfin les enfants, les collégiens ont été initiés au graphe, le graffiti le matin et le hip-hop le soir. Je me dis que la première chose qu'on a à faire, c'est de donner une place au corps des adolescents. Il n'y a pas assez de sport, il n'y a pas assez d'activités où ils utilisent leur corps
ouais.
Et par conséquent, les pauvres, c'est vrai que rester 6 heures, 7 heures par jour, assis, concentrés, c'est une forme de violence, hein, qu'on soumet au corps. Hein. Je ne dis pas que les professeurs sont violents, bien sûr. Mais je veux dire, il y a une espèce de violence et il faudrait quand même que ce corps, qui est très important au moment de l'adolescence, on le prenne en compte. Je pense que l'école ignore à peu près le corps des adolescents et il faut vraiment faire une réflexion.
Tu trouves que c'est pas assez en tout cas,
non,
toi?
Ah non, ouais. Mais quand je vois le plaisir qu'ont les jeunes à faire du hip-hop, je les ai observés, mais je me dis, mais on devrait avoir des cours de hip-hop obligatoires ou des cours de danse obligatoires. Quand je sais aussi le plaisir qu'ils ont là, au collège de Cordes-sur-Ciel, on a mis en place, et bon, c'est Véronique, hein, mon épouse, qui vient faire un peu de bénévolat, et elle a mis en place un petit atelier théâtre philo. Et je sais le plaisir que les gamins ont à faire ça. Je me dis qu'il faudrait redonner une place au corps.
Mmh.
Plus de sport, plus de théâtre, plus de danse. Et voilà, de façon à ce que les enfants soient mieux aussi, hein, qu'ils puissent mieux suivre les autres enseignements.
Plus d'expression corporelle, ça c'est un des points donc pour le collège de demain, d'accord.
Ah oui, les arts, le chant, le sport. Moi, quand j'étais à Alban, on avait monté une section sportive VTT qui a beaucoup marché. Là, je sais, c'est une attente des parents. Je les ai interrogés par questionnaire. Les parents me disent, et je suis absolument d'accord avec eux, il faut développer les arts, monsieur Robin. Mais vous avez raison, on va essayer de le faire, hein, avec nos moyens. Mais je pense que tout le monde se dit qu'il faut faire, voilà, des savoirs académiques, ils ont leur place. Mais il faut aussi qu'on puisse prendre en compte cette dimension créative du corps des gamins et qu'on lui donne toute sa place si on veut justement faire un collège du bien-être qu'appelle de ses voeux le ministre, à juste titre. Hein. Il faut qu'on cultive le bien-être et ça doit passer par le corps. Voilà.
Si toi, tu as envie de le faire dans l'établissement dont tu as la responsabilité, donc à Cordes-sur-Ciel, qu'est-ce qui t'en empêche?
Alors, rien, ce qui m'en empêche, c'est d'abord que tout le monde soit d'accord sur cette idée-là. Hein. Donc, on y travaille avec les équipes. Et puis après, ça va être une question de moyens, c'est-à-dire en heures d'enseignement, ou bien en ayant un petit budget pour faire intervenir des intervenants. Là, par exemple, là, j'ai pris contact auprès de ce directeur artistique qui a fait danser les gamins en hip-hop. Il était assez formidable et quel enthousiasme il avait. Donc, je suis allé voir Jamel à la fin. Je lui dis, Jamel, bon, j'ai pris son 06 et je lui dis...
De la JDR.
Si, ah oui.
La JDR factorielle, lui.
Voilà, ouais. Je dis, si j'ai un petit budget, je vous fais venir parce que... quand je vois le plaisir qu'ont pris les jeunes, et je sais que ça leur fait du bien. Et il faudrait que les journées soient rythmées, où il y a un peu plus de place pour le corps. Le sport, ça, c'est vraiment très important.
Ok. La dernière fois, ce que tu trouvais qui n'allait pas, ce côté un peu bien vivre ensemble, je suis persuadé que là aussi, tu as des propositions à nous faire. Tu as parlé des micro-violences qui peuvent avoir cours dans un collège aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut y faire pour y remédier dans le collège de demain?
Alors, je pense qu'il faut consacrer du temps à ce que je te disais, à enseigner la communication non violente et bienveillante. Et ça s'apprend. Il faut que les gamins ils aient des répertoires d'action, c'est-à-dire que j'ai un différent avec un camarade, comment ça se passe, comment on va le traiter. Ça me semble fondamental d'enseigner ça, et du reste, ce serait très bien aussi pour nous les adultes. Donc je pense qu'il faut former et les élèves, et tout le monde, et y compris les enseignants aussi, parfois, qui ont besoin aussi d'avoir de bons repères. Je pense aussi qu'il faut développer tout le travail coopératif. Quand on regarde le système français, là je lisais des études par rapport à ça, le travail coopératif entre élèves, le travail de groupe, pour faire simple, il est beaucoup moins développé en France qu'il n'est dans les pays scandinaves, par exemple, ou en Angleterre.
C'est ce que j'allais te dire, les pays nordiques sont ça. Plus en avance.
Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse cette révolution-là. C'est presque, en temps, pour les élèves, c'est presque la moitié moins. Donc ça fait des comportements plus individualistes, parce que quand on fait du travail de groupe, on apprend à connaître son camarade, on peut changer de groupe. Par exemple, un truc aux États-Unis qu'ils font, je trouve ça extraordinaire, c'est que au début d'année, ils obligent à changer de place les gamins de façon à ce que, au bout d'un trimestre ou une certaine période, tout le monde ait pu discuter un peu avec chacun. Mmh. Voilà, c'est des petits trucs, mais ça, je pense qu'il faut vraiment renforcer ça. Alors, ça suppose de bien former les professeurs à la pédagogie coopérative. Par exemple, pour le collège de Corturciel, on a monté une formation là-dessus, et les professeurs sont assez enthousiastes pour développer ça, donc c'est très bien. Et puis après aussi, il faut qu'on s'équipe, parce que ça suppose un petit mobilier. Par exemple, tu veux déplacer les tables, si tu as les tables sur roulettes, tu vois, c'est plus facile. Donc il faut qu'on s'arme par rapport à ça. Moi, je pense que la coopération, ça, c'est vraiment fondamental, surtout qu'aujourd'hui, tout le monde prône l'intelligence collective. Donc c'est vrai qu'on a une école française qui a beaucoup de qualités, mais qui fabrique un peu trop d'élèves individualistes, l'accent un peu trop mis sur la compétition, sur les notes, la performance individuelle, alors que la performance collective, à part peut-être en sport, les sports collectifs par exemple, ou la chorale qui permet de travailler ça, on le développe pas assez, quoi. Donc il faudrait vraiment développer la pédagogie coopérative, ça me semble un point essentiel, et je sais que les enseignants ils sont prêts. Mais il faut les former.
Mais ça veut donc dire que le collège change sans changer, parce que il change dans la manière d'aborder peut-être certaines matières, dans les relations qu'on a, même avec les enseignants. Aujourd'hui, un enseignant du collège, il fait pas peur, alors que à l'époque, tu le voyais à 200 mètres, tu traçais dans le sens inverse, voilà. Mais il y a toujours ce côté de compétition et même de notes, alors qu'il y a plus véritablement de notes au collège, je me trompe.
Bah oui, alors là, je vais peut-être pas me faire des amis chez les enseignants, mais je pense, bon, les collègues le savent, donc ils ne seront pas surpris de m'écouter et s'ils m'entendent dire ça. Quand je suis arrivé, je leur ai proposé puisqu'on forme un cycle, ce qu'on appelle l'école du socle, CM1, CM2, 6e. J'avais proposé aux collègues qu'on entame une réflexion sur la 6e. Pourquoi on noterait les élèves en 6e? Franchement, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire en 6e? Créer du lien, les évaluer, terminer ce cycle, leur laisser un petit peu de temps. Moi, je suis pas contre les notes, attention, mais on pourrait introduire les notes très progressivement, tu vois, à partir de la classe de 5e, 4e, 3e. Franchement, mettre une note en musique, en EPS, on pourrait peut-être limiter ce côté un peu compétition. Parce que c'est vrai que quand les gamins travaillent, après, ils vont travailler pour la note. Tu sais que dans la motivation, t'as deux facteurs de motivation. Oui. T'as la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que la tâche en elle-même, et puis tu as la motivation extrinsèque, c'est-à-dire la récompense, la rémunération. Donc c'est vrai que si on met tout de suite l'accent sur les notes, les gamins ils sont toujours en train de regarder, moi j'ai eu telle note, etc. Je pense qu'il nous faut des notes, mais voilà, on pourrait peut-être faire ça avec un peu plus de douceur.
D'accord.
Moi, je suis pas partisan, je tiens à le dire, et puis au passage, je rassure mes collègues, je suis pas partisan d'un collège sans notes, mais peut-être un peu de progressivité, quoi. On n'est pas obligé, je pense, d'introduire des notes en sixième.
Ou d'avoir des notes dans toutes les matières.
Oui, ou d'avoir des notes dans toutes les matières. Peut-être qu'on peut neutraliser un peu la compétition. Moi, c'est souvent ce que je propose aussi. C'est-à-dire quand un élève est démotivé, il est en décrochage, on peut très bien suspendre la notation. C'est des choses qu'on peut faire, d'ailleurs.
Pour qu'il retrouve de la motivation.
Parce qu'après, à quoi ça sert de mettre en permanence des mauvaises notes au bout d'un moment? Les gamins, ils se disent, Bon, bah, de toute façon, que je travaille pas, j'ai 5, j'ai 6, j'ai 7, j'ai 8. Bon, donc voilà, il faut ça. La note aussi, elle peut aussi décourager. Donc il faut faire très attention à ça. Hein. Faut vraiment
Mais à contrario, elle peut aussi encourager.
Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'elle peut venir soutenir la motivation de ceux qui, par exemple, pourquoi je fais des mathématiques, j'en vois pas trop le sens, donc avoir une bonne note, être performant. Bon, c'est pour ça, moi, je suis pour un système qui soit un peu hybride et qu'on introduise les notes peut-être un peu plus, voilà, de façon progressive.
Mmh, après, faut pas réfléchir.
Après, faut pas se mentir non plus, parce que l'école a une mission de formation et puis elle a une mission d'orientation. Et cette orientation, bah, de façon très républicaine, on l'a fait par les notes. Et moi, je vois pas par quoi on pourrait remplacer les notes, hein, parce que sur quelle base? C'est pas je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bon, voilà, ça c'est terminé cet âge-là. Donc, c'est vrai que les notes, elles ont aussi leur place dans le système éducatif. Hein. Moi, par exemple, je vois les collègues qui sont passés au collège sans notes. Ils évaluent les élèves par compétences. Mais ces compétences, en classe de troisième, elles sont transformées en fait en notes, en quelque sorte. Donc, on y revient toujours. Voilà. Simplement, peut-être un peu de mesure et puis, voilà, de faire ça de façon plus douce. Enfin, moi, c'est une proposition que je mets sur la table.
Hein. Et il n'y a pas que les notes à revoir pour le collège de demain, on va le voir hein, en suivant. Il y a encore pas mal de propositions que toi, tu as, suite aux réflexions que tu as pu mener, aux lectures aussi que tu as pu faire hein, sur à quoi pourrait ressembler le collège de demain, le collège du 21e siècle. On parle d'école, de collège sur CFM Radio aujourd'hui. Vous écoutez le carnet de correspondance en partenariat avec le collège Valcérou de Courtioussel et plus particulièrement hein, Jean-Marc Robin qui en est le principal avec qui est venue l'idée de développer une émission comme ça où on vous ouvre les portes du collège, non pas pour faire passer le brevet à ceux qui ne l'ont pas eu, à ceux qui ne l'ont jamais eu, à ceux qui auraient eu du mal à l'avoir aujourd'hui, mais plutôt pour poser un regard hein, sur l'état de l'éducation nationale aujourd'hui. aujourd'hui aussi d'éclaircir certaines notions qui peuvent paraître floues à ceux qui ont été collégiens il y a fort longtemps, mais aussi faire quelques propositions comme le sujet qui nous réunit aujourd'hui sur que pourrait être le collège de demain. Donc en première partie, Jean-Marc a déjà commencé à nous donner quelques idées. Seront-elles retenues par le ministre de l'Éducation nationale? On s'en fout, mais en tout cas, on les dit. Plus de place au corps des adolescents, qu'ils puissent se servir de leur corps. Plus de sport, d'éducation manuelle et technique, du théâtre, des arts plastiques dans les heures au collège. Plus de travail coopératif aussi, ça on l'a dit. Et plus aussi de formation sur la communication bienveillante, autant pour les enseignants que pour les collégiens entre eux. On va poursuivre comme ça avec quelques idées de ton programme pour le ministère de l'Éducation nationale. Ah,
je sens que le ministre va m'appeler tout de suite.
Il va dire oh là là.
Je veux rejoindre le ministère. Non, mais moi c'est vrai que si j'avais le ministre en face de moi, je dirais Monsieur le ministre, il faut aussi qu'on réfléchisse sur les rythmes, les rythmes scolaires, parce que je le disais, hein, le collège, si je parle du collège, mais c'est vrai aussi pour le lycée, on a une mission d'instruction aussi d'éducation. Et la question que je me pose toujours, c'est avec les équipes, hein, c'est on le fait quand ça? Moi, je vois, par exemple, avec notre infirmière, elle doit faire passer les gestes qui sauvent. Alors, on s'appuie aussi sur l'appui des pompiers, que je remercie ici de Cordes-sur-Ciel.
La caserne de Cordes.
Voilà. Ou bien former les jeunes à la formation du premier secours. Hein, tu vois, ça, c'est une formation de 10 heures. Mais on le fait quand? C'est-à-dire que là, concrètement, on va faire quoi? On va extraire des élèves de cours pour qu'ils puissent se former. Donc, moi, je me dis qu'il faudrait réfléchir aussi à avoir un temps, peut-être une demi-journée par semaine, où il n'y a pas de cours, où on fait autre chose. Alors, on fait de la formation dans le domaine de la santé, de la citoyenneté. On laisse la main aux équipes pour construire ce programme éducatif. Voilà, alors ça pourrait être peut-être un mardi, un jeudi, pas un vendredi après-midi, parce que sinon,
ouais,
tout le monde va demander.
Le week-end va commencer
voilà,
un peu trop tôt.
Le week-end va commencer à midi, donc ça, c'est non. Mais je pense qu'il faut engager une vraie réflexion sur les rythmes. Tu vois, en ce moment, on est en hiver. Il n'y a pas de lumière. On sait que, par exemple, les incidents, ça, c'est les statistiques du ministère qui le montrent. Les incidents scolaires sont très forts sur la période janvier-février.
Ouais,
c'est là, par exemple, on a le plus de conseils de discipline et le plus d'incidents. Pourquoi on ne réduirait pas la journée des jeunes, tu vois, pour qu'ils puissent commencer à travailler à 9h, par exemple, et partir à 16h? Alors, éventuellement, ils restent au collège pour faire les devoirs ou des activités, mais je pense que avoir toujours la même journée, avoir toujours le même menu, quand ça ne correspond pas, quand tu n'as pas de lumière, que tu es un jeune... Bon, ben voilà, je dirais, cette petite période d'hiver, c'est une période un peu compliquée pour tout le monde, hein, et pas simplement pour les jeunes. On devrait quand même réfléchir au rythme scolaire.
Trop de routine, selon toi, avec ce rythme scolaire.
Oui, je pense qu'on pourrait... Alors, c'était, par exemple, une question qui avait été sur la table, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas allonger les vacances d'hiver d'une semaine? Tu vois, par exemple, les vacances de décembre. Moi, je pense que peut-être qu'il faut y réfléchir. Alors... On va me dire, oui, on voit venir, vous avez envie d'avoir une semaine de plus de vacances, monsieur Robin? Non, pas du tout. Hein,
j'en ai déjà bien assez.
Oui, voilà. J'en ai déjà beaucoup. J'en ai déjà beaucoup. Et... Non, c'est pas ça la question. C'est qu'il faut, qu'on réfléchisse à ça, hein, quitte à peut-être partir un peu plus tard. Ou moi, je vois sur la question des ponts. Alors, c'est vrai qu'en France, on peut rien toucher, mais des fois, le mois de mai est complètement troué, le mois d'avril aussi. Alors, peut-être qu'on pourrait quand même réfléchir à tout
réfléchir
ça
à autre
et
chose
avoir des périodes plus harmonieuses, parce que par exemple on a un tout petit troisième trimestre, ça c'est pas bien parce que dans ce troisième trimestre il faut faire beaucoup de choses, il faut préparer les élèves aux examens, on a l'orientation et on a un petit trimestre rikiki. Tu sais, officiellement l'année elle se découpe en 36 semaines, mais quand tu comptes toi comme sur l'établissement les semaines utiles, t'en comptes 33. Pourquoi? Parce que la période des examens, la période d'orientation, bah t'as 2-3 semaines
qui sautent,
qui
comme
seront,
ça.
Qui vont pas sauter mais qui vont pas être de pleine semaine. Donc c'est vrai qu'il faudrait quand même remettre sur la table cette question des rythmes scolaires, prendre le temps. Alors moi je propose pas qu'on change dès l'année prochaine, mais mettre tout le monde autour de la table, prendre le temps et de réfléchir à ça, de réfléchir peut-être à une journée plus courte en hiver. Bon,
je trouve que les élèves sortent trop tard. Alors, je sais très bien que ça va pas correspondre avec forcément les heures de boulot des parents, mais je le vois, école primaire, école collège, ils sortent 17h30, 18h, ils arrivent à la maison, ils sont déjà un peu claqués, tu peux plus leur demander grand-chose.
Franchement, des fois, on l'oublie, c'est incroyable. Nous, ici, on est sur un territoire rural, les jeunes, après, ils peuvent avoir 30 minutes, 45 minutes de transport scolaire.
C'est ça.
Donc, tu sors du collège à 5h, tu rentres chez toi, c'est quoi, 5h45, 18h, tu fais un petit goûter. Si après, encore, tu as 30-40 minutes de devoir, ça fait quand même des journées assez lourdes. Hein. Mmh. Donc c'est vrai qu'avoir des cours qui se terminent à 16 heures, peut-être, c'est le problème du système français, c'est qu'on a beaucoup d'heures de cours, mais rassemblées sur finalement très peu de semaines. Vraiment, par rapport aux autres systèmes éducatifs, c'est vraiment un problème et il faudra se pencher sur ce problème-là. Je dirais faire preuve d'un peu de courage et puis de prendre le temps de construire quelque chose, mais ce serait l'intérêt de nos enfants. Si on veut faire une école du bien-être, tu as raison, au collège, surtout pour les petites classes, il faudra arrêter à 16h. Et de 16h à 17h, ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux, nous on les accompagne à petit goûter. Un peu ce qu'on fait pour les internes, hein, ils font un petit goûter, puis après ils peuvent faire un peu de boulot. Et ça, c'est bien.
Je le glisse comme ça, vous en faites ce que vous voulez, les uns et les autres. Mais au Cameroun, où moi, j'ai passé l'essentiel de ma scolarité, l'école, quel que soit le niveau, de l'école maternelle jusqu'au lycée, c'est de 7h30 à 15h30. 15h30, tout le monde est dehors et se démerde. Et d'ailleurs, tu parles aussi dans les propositions que tu as pour le collège de demain, pour permettre une certaine équité dans l'égalité, dans les chances de réussite, que tous les devoirs écrits soient faits au sein du collège.
Ah oui, alors ça, c'est une conviction profonde.
Et que j'ai pourquoi depuis,
parce que si on veut développer une pédagogie d'égalité des chances, il faut que le maximum de choses soient faites au collège ou au lycée. D'ailleurs, c'est pas sûr, les travaux de recherche indiquent pas que quand on donne beaucoup de devoirs aux élèves, les élèves progressent. Ça, c'est un mythe encore. Ça fait partie des idées reçues. Alors attention, je dis pas qu'il faut faire aucun devoir. Par exemple, relire sa leçon, lire un bouquin, ça, bien sûr, c'est des choses qu'on peut faire à la maison, parce qu'il faut bien ce travail de mémorisation. Mais les travaux écrits, franchement, c'est injuste. Certains vont avoir une chambre, par exemple, des parents qui seront là, qui pourront les aider. Puis en plus, avec Internet, tu donnes du travail écrit à faire à tes élèves. Alors maintenant que l'intelligence artificielle, carrément, ils n'ont même plus à bosser. Donc moi, quand j'étais prof de sciences économiques...
C'est ça. Hein.
Moi, c'est une décision que j'avais prise quand j'étais prof de sciences économiques et sociales. Donc je donnais rien à faire à la maison, travail écrit. Et en revanche, tous les mois, il y avait une dissertation je m'arrangeais pour faire une dissertation de 3 heures et entraîner mes élèves pour le bac. Et du coup, mes élèves, ils n'avaient pas fait 1 ou 2 bacs blancs, ils en avaient fait 7 dans l'année. Alors évidemment, ça paye, ça. Donc je pense qu'il faut que nous, on s'organise l'école pour que les travaux écrits... Mais avant, ça se passait comme ça. Tu faisais les travaux, il y avait du tutorat, il y avait des gens qui t'aidaient à faire le boulot, il y avait des compositions en 2 heures de cours. Je pense qu'il faut retrouver ça. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est que le travail écrit soit fait à l'école. Il faut s'organiser pour ça, quoi.
Mais l'un dans l'autre, quand je comptabilise un peu toutes les propositions que tu fais, il me semble avoir retenu le chiffre de 26 heures d'enseignement par semaine par
collégien,
c'est
ça, hein? Ouais, au collège.
Au collège, 26 heures. Donc selon toi, déjà, il faudrait peut-être augmenter ce nombre d'heures-là, non? Parce que je trouve que ça fait quand même pas mal de choses, là.
Ça fait pas mal de choses. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir une réflexion sur les rythmes scolaires et peut-être qui est... je vais pas me faire des amis en disant ça, hein. Un peu plus, peut-être 1 ou 2 semaines de cours de plus et des journées plus courtes. Tu vois, il faut vraiment réfléchir à ça. Bon, je vais me faire maudire par les collègues, mais bon.
Ils seront contents d'apprendre. Ils seront pourtant contents, d'apprendre que tu milites aussi pour plus d'autonomie.
Franchement, il faut qu'on arrête. Il faut faire confiance aux profs. Moi, je discute beaucoup avec les professeurs. Ils sont de beaucoup de bonne volonté, mais on leur demande trop, quoi. Les programmes. Alors, en lycée, n'en parlons pas. Mais en collège aussi, ils sont très riches. Les collègues, ils font ce qu'ils peuvent, mais. Faudrait vraiment fixer les fondamentaux et puis après laisser chaque collège, chaque équipe décider de ce qu'on veut approfondir. Hein, de façon aussi qu'il y ait ce travail d'équipe, parce que souvent on dit les enseignants en français ne travaillent pas ensemble. Oui, mais si tu définis à l'avance le programme, le parcours au ministère,
comment tu veux que
les gens trouvent un objet de discussion hein, donc moi j'avais écrit un truc là-dessus en disant si on veut développer le travail des équipes, il faut aussi que les équipes aient des enjeux. Donc, les enjeux, ça peut être pas simplement d'organiser un brevet blanc ou un bac blanc, mais ça peut être tout simplement se mettre d'accord sur un programme. Et puis, on a des enseignants qui savent faire plein d'autres choses que leur discipline. Donc, parfois, on peut croiser les regards. Donc, il faut que cette liberté pédagogique, on la redonne aux enseignants.
Je trouve, par exemple, très curieux que pour un collège qui est rural, qui ait très peu de choses sur l'agriculture.
Oui, c'est vrai.
Par exemple, là, je ne mets pas l'accent que sur tel ou tel collège. Hein, mais je me dis, moi qui traîne maintenant là, dans cette zone-ci où il y a des établissements qui sont ancrés en milieu rural, mais il y a très peu de choses sur l'agriculture. Alors, on m'a souvent répondu, je ne sais plus dans quel cadre, ah ouais, ils en bouffent déjà à la maison. Ben oui, et donc
Et donc, c'est pas vrai pour tous les élèves. Déjà, il y a des élèves qui ne connaissent pas la terre, les animaux. Donc, oui, moi, je pense qu'il y a plein de pistes à explorer. Hein. Mais il faut vraiment faire confiance aux enseignants.
Il faut
vraiment les considérer comme des... Les enseignants, parfois, ils le regrettent. Hein. Ils se disent, mais on ne nous fait plus confiance. Et je ne parle pas des ministres. Hein. Ce n'est pas une question de ministre, c'est l'institution. On ne nous fait pas confiance parce qu'on veut toujours cadrer notre travail. Hein. Je veux dire, mais un enseignant, je veux dire, c'est un cadre recruté à Bac+5. Je veux dire, ils ont une expertise. Laissons nos collègues travailler ensemble, développer leur expertise. Et je suis sûr qu'on va avoir de très belles choses. Moi, je me rappelle d'une chose quand il y avait au collège ce qu'on appelle les itinéraires de découverte. Donc là, les enseignants travaillaient ensemble. Alors, on retrouve un peu cette philosophie dans la réforme 2016, ce qu'on appelle les enseignements pratiques interdisciplinaires. Et ils construisaient des programmes ensemble. Tu vois, par exemple, une des collègues d'anglais de Cordes sur Ciel, elle m'a dit, alors, elle est prof d'anglais, mais aussi, elle adore chanter. Elle me dit, oh, il faudrait qu'on fasse quelque chose avec la chorale. Je lui dis, mais c'est super, on va faire une chorale en anglais. On va faire et de l'anglais et du chant. Ben voilà, c'est des petites choses, mais franchement, dans la vie d'un collège, ça peut changer plein de choses.
Déjà, elle est contente de venir à son boulot tous les jours parce qu'elle elle y prend du plaisir. Les enfants aussi, parce qu'ils apprennent différemment que peut-être les copains qui sont, je sais pas moi, à Gaillac, à Carmo, ils sont contents de partager tout ça avec eux. Et nous, on est contents parce que ça nous fait un sujet pour le carnet de correspondance avec Jean-Marc Robin. Merci beaucoup, Jean-Marc. Cher auditeur, vous retrouvez en podcast, hein, si vous avez pris en cours de route, l'émission d'aujourd'hui qui portait donc sur le collège de demain avec les propositions de Jean-Marc à l'endroit de M. Papendiaï qui a bien sûr pris
voilà, donc
les notes.
J'attends que le ministre m'appelle.
Alors c'est le 06.
Je n'ai pas son 06 encore. En tout cas, s'il m'invite, je viendrai avec plaisir.
Eh bien, le message est passé. Hein, vu qu'il nous écoute confortablement installé dans son bureau à Paris, il nous écoute sur cfmradio.fr comme vous pouvez le faire aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve dans 2 semaines dans Carnet de correspondance.
À bientôt, Jack. Vous. Yeah.